Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Alors nous poursuivons sur ce thème que vous savez, toujours insatisfait. Quel espoir? Plus exactement, jamais satisfait, c'est la même chose. Quel espoir? Et pour ce qui est de ce soir, nous allons traiter d'un grand sujet que je ne prétends pas traiter comme cela de façon complète, exhaustive, en 45 minutes de temps, mais nous tâcherons d'en dire l'essentiel. Nous vivons à l'heure qu'il est au sein d'un monde qui, comme nous le disions hier soir, se ravale littéralement au niveau de la bête. Et nous affirmions ce qui suit toujours hier soir, humanité sans Dieu verse dans la bestialité. Humanité sans divinité, la plupart du temps, devient bestialité. Or, le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous vivions à l'état de bête, jamais. Il a voulu l'homme à son image, et nous allons maintenant le lire. En Genèse chapitre 1, nous lisons au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oh, il est tellement important de rappeler ces choses, pour commencer. Et puis, nous poursuivons la lecture au chapitre 2, en lisant au verset 23, l'homme en accueillant celle que Dieu lui avait créée, n'est-ce pas, pour la lui donner pour épouse. Adam eut ses paroles avec des accents de joie, n'est-ce pas? Et l'homme dit, Genèse 2, 23, « Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Le verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il n'est pas précisé ici de qui est venue cette parole. Mais le Seigneur Jésus, lui, a pris soin de nous le faire savoir. En Matthieu 19, il rapporte ce même texte en disant, « N'avez-vous pas entendu qu'à l'origine le Créateur, n'est-ce pas ? Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et Jésus affirme, que celui qui fut à l'origine de cette parole fut Dieu lui-même. » Nous lisons un autre texte en 2 Samuel 13, qui va peut-être vous surprendre, mais il est important que nous le lisions afin que nous nous fassions une sérieuse idée du thème de ce soir. À partir du verset 1er, après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. En fait, cette Tamar était la demi-sœur d'Amnon. Il est donc écrit que Amnon s'était amouraché de Tamar. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa Il est écrit sa sœur, mais c'était en réalité sa demi-sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre ?» Il était atteint d'anorexie mentale, il ne mangeait plus, tellement il était tombé fou, n'est-ce pas, de cette Tamar. Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Alors, de sa main, hein, cet Amnon, il se serait remis à manger. Hein. Mais pas de la main de n'importe qui. De la main de Tamar, Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux, et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Puis Amnon refusa de manger, et il dit, « Faites sortir tout le monde. » Quel piège, hein ? Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-moi le mets dans la chambre, et que je le mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les portait à Amnon, et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre, comme elle les lui présentait à manger. Il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma demi-sœur en réalité. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets point cette infamie. Où irais-je, moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël ? Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas que je sois à toi. » Mais il ne voulut point l'écouter et lui fit violence. Il la déshonora et coucha avec elle. Puis, Amnon, écoutez bien cela, eut pour elle une forte aversion, une haine, plus forte que n'avait été son amour pour elle. Et il lui dit, « Lève-toi et va-t'en. Je t'aime, moi non plus. » Vous connaissez cela, hein ? On en a déjà parlé dans ce lieu il y a quelque temps. Et puis à présent, nous lisons ce texte bien connu, mais il est intéressant que nous le rappelions. Jean 4, cette rencontre avec Jésus-Christ, de la femme samaritaine, une rencontre inoubliable. Nous lisons Jean 4 à partir du verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, rien ne l'y obligeait. Mais nous allons dire pourquoi cette parole. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, et qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau restera insatisfait. » Et nous voilà dans notre sujet en plein. Jamais satisfait. « Quiconque boit de cette eau, une eau de la terre, une eau terrestre, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, alors celui-là n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Et Jésus d'ajouter cette parole remarquable en cela, tu as dit vrai. Tu m'as dit la vérité sur toi. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Elle en savait des choses, cette femme samaritaine. Jésus lui dit, « Je le suis, ce Messie. Là, c'est moi qui te parle. » Remarquable texte, absolument unique, sur lesquels nous aimons prêcher l'Évangile, de mille et une manières. Oh, nous allons parler de cette femme qui connaissait des circonstances extrêmement difficiles. Et le moins que nous puissions dire à son sujet, c'est que pour commencer, cette femme était malade de sa beauté. Alors voyez-vous, vous en avez qui sont plus beaux que d'autres. Et vous en avez qui sont moins beaux que d'autres. Mais il n'est pas toujours évident de savoir gérer sa beauté, quand on est beau. Il s'agissait donc d'une femme qui n'avait pas su gérer convenablement sa beauté. Mais en un choqué, ce n'est pas écrit qu'elle était belle. Oui, mais on n'a pas de peine à le deviner, j'allais dire. Vous savez, quand on est femme, on n'a pas cinq maris comme cela pour finir dans le concubinage sans être belle. Certainement qu'elle n'avait pas eu de peine à les changer, ces hommes, l'un après l'autre, heureusement, n'est-ce pas, passant chez elle. Et certainement que sa beauté devait être pour beaucoup dans cette affaire. Mais elle n'avait pas su gérer sa beauté, et sa beauté, en fait, avait été pour elle un très sérieux piège. Voyez-vous, la Bible nous entretient de beauté. Mais elle nous entretient surtout de beauté intérieure. De beauté morale et spirituelle. Et souvent la question est posée de la part de jeunes. C'est quoi la sainteté? nous dit-on. Alors je réponds à cela. C'est une beauté morale et spirituelle que Dieu apprécie beaucoup plus que la beauté physique. Et vous en avez qui peuvent être bien laids, hein. J'ai entendu une histoire il y a peu de temps. Je vous la rapporte telle que j'étais au Canada. Justement, je faisais une tournée avec un chanteur, Jacques Boulian, du western et du country évangélique. Quand un chrétien a dit à un autre, c'est fou ce que le Dieu a le sens de l'humour. Alors l'autre de lui dire, tiens, c'est une histoire que j'ai pu capter comme ça. L'autre de lui dire, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui te le prouve? Mais t'as qu'à te regarder dans une glace. Ouh, c'était terriblement envoyé, hein. J'avais été très gêné pour l'autre, entre parenthèses. Mais enfin, parfois, les hommes sont ainsi faits. Mais vous en avez qui sont très laids, mais qui peuvent être devant Dieu beaucoup plus beaux, justement de cette beauté morale et spirituelle que la Bible appelle la sainteté. C'est une beauté remarquable. La Bible dit que Dieu est saint, et Dieu est superbement beau. Oh, j'imagine et j'anticipe le jour où nous allons paraître devant lui, hein. Alors lui est tout empreint d'une beauté absolument immaculée. Et la Bible dit que cette beauté est tellement éblouissante qu'à l'heure qu'il est, nous ne pourrions pas supporter de la regarder. Dieu est beau. Il est saint. Cette femme avait été malade de sa beauté. Et puis aussi malade de sa condition de femme. Parce que nous savons comment, au Moyen-Orient, les femmes étaient traitées en ce temps-là, c'est encore le cas. Et très souvent, surtout au sein de certains peuples, malades de sa condition de femme. Et nous savons que Jésus est venu pour rendre à la femme, j'allais dire sa vraie place, hein, son vrai rôle, sa vraie dignité, sa vraie signification de femme. Voilà pourquoi tant de femmes le suivaient, c'est écrit, hein, dans l'Évangile, parce qu'elles avaient vu chez le Sauveur celui qui était venu leur rendre réellement leur dignité. Oh, n'hésitons pas à le dire, la femme a été dépréciée dans le passé au niveau de tant et plus de civilisations jusqu'à Napoléon, lequel devait être un misogyne. Il aimait bien les femmes dans son lit, certes, oui, mais ça n'allait pas plus loin. Mais le code Napoléon a complètement déprécié la femme. Et Dieu sait combien, jusqu'en Belgique et en France, tout ce que nous avons de juridiction se fonde en partie sur le code Napoléon. Malade de sa condition de femme. C'est peut-être le cas d'une femme ici, une Belge, mais qui n'avait pas connu cette condition épouvantable de femme en ce temps-là, mais qui très souvent, peut-être, votre cas, vous vous plaignez d'être une femme et de certains comportements vis-à-vis de vous. Alors le Seigneur vous comprend, etc. Il vous aime et il voudra arranger cela ce soir. Et puis, c'était encore une femme malade de sa race. Parce que Samaritaine, et les Juifs, les Samaritains étaient de sang mêlé. Ils étaient considérés par les Juifs comme à la limite de race dégénérée. Oui, je n'hésite pas à dire même dégoûtante. Voilà pourquoi les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Parce que les Samaritains résultaient d'un mélange de races. Ils étaient en partie des Juifs, mais qui s'étaient mêlés à des païens et qui avaient même adopté certains cultes, disons, des traditions idolâtres. Une femme donc malade de sa race, malade de sa solitude. Il y a peut-être ici quelqu'un qui connaît ce que signifie que d'être malade de sa solitude. Je me souviens de ce jeune homme à Paris qui me disait, un employé des PTT, quand je rentre après mon travail dans mon studio là, à la maison, et quand je me retrouve tous les soirs en face de mon camembert et de mon verre de vin, hein, ah, j'ai comme une envie de me taper la tête contre les murs. Il y a peut-être quelqu'un qui sait ce que ça veut dire, hein, et qui a connu pareille circonstance, la solitude intérieure, hein. C'est dur. Une femme malade de sa religion. Comment cela? Ben, elle avait une religion. C'est même elle qui engagea le ping-pong religieux, le combat religieux avec Jésus. Hein. Vous vous dites que, nous nous disons que, etc. Ça nous arrive très souvent avec les agents de secte. Hein. Voilà. Alors, elle avait une religion précise, elle regardait vers une montagne, un mont, qui s'appelait le mont Garizim. Elle n'était pas sans religion, mais sa religion lui avait permis de vivre ce qu'elle avait vécu. Au plan moral, au plan spirituel. Malade de sa religion, en fait, sa religion ne lui avait pas donné Dieu. Une religion, mais pas une relation. Et puis une femme malade de son péché. Malade de son péché, malade de ses divorces, malade de ses 5 maris. Oui, pour finir en concubinage avec un 6e homme. Mais peut-être vivez-vous en concubinage. Alors, surtout, ne vous envoyez pas juger du tout, ni par nous, ni par Dieu. Le Seigneur ne lui fit à cette femme aucun reproche. Il connaissait sa vie à fond. À fond. Aucun reproche dans sa bouche vis-à-vis de cette femme, parce que il voulait l'aider à en sortir. Donc, une femme malade, malade avec 6 hommes, la voilà enfin en présence du 7e homme. Ah, hein, le 7e homme, est-ce que vous l'avez rencontré? Le chiffre 7 dans la Bible, c'est quoi? Le chiffre de la perfection, hein? Parce que les autres ne l'avaient pas satisfaite, cette femme. Hein. Oh, elle devait présenter ce que nos savants aujourd'hui appellent, nos psychiatres, nos psychologues, un phénomène de compensation. Parce que frustrée en amour, en affection, elle s'était livrée, alors corps et âme, au sexe. On ne règle pas le problème de la frustration affective de cette façon-là. Mais voyez-vous, ceci n'est pas un phénomène actuel. La Bible nous entretient d'une femme qui était passée par là. Elle présentait, j'allais dire, le cas type du cœur frustré, insatisfait, terriblement insatisfaite, malgré 6 hommes. La voilà maintenant en présence du 7e homme. Lequel 7e homme? Le Christ était venu jusqu'à elle, non pas pour lui, comme les 6 premiers, hein, on les connaît, hein, aujourd'hui les hommes et puis aussi les femmes, hein, mais il avait couru, il avait volé vers elle, pour elle, la sachant en difficulté, la sachant dans des problèmes absolument impossibles, le Christ avait décidé d'aller jusqu'à elle pour l'aider. Nous avons un sauveur fantastique. Elle avait besoin d'un sauveur. Et mon ami, vous avez besoin d'un sauveur. Moi aussi. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Peut-être n'avez-vous pas eu Madame Saint-Marie. Peut-être n'êtes-vous pas en concubinage avec un 6e homme. Peut-être que vous tenteriez de vous justifier un peu de cette façon-là. Non. La Bible dit que tous sont péchés et sont privé de la gloire de Dieu. Nous en sommes tous au même point. Mais Jésus a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu. Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Oh, ceux qui éprouvent cette maladie du péché, qui éprouve la vie comme une espèce de maladie à vivre tous les jours de façon impossible, le Christ est venu pour cela. Et Jésus a dit lui-même à Zachée, lui aussi était passé par de drôles de problèmes, hein, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, quel bonheur que d'avoir un tel Sauveur qui nous aime. Mais franchement, je vous pose la question. Après avoir dit ces quelques mots sur cette femme, avec sa vie, la vie qu'elle avait connue, méritait-elle qu'on se déplaçât et qu'on se fatiguât pour elle? Parce que le Christ est arrivé fatigué au puits de Jacob. Vous savez, quand les Juifs voulaient aller de Judée en Samarie, la plupart du temps, pour ceux qui sont allés dans ces régions-là, comme c'est mon cas, bien, la plupart du temps, ils les empruntaient. Ils longeaient le Jourdain, beaucoup plus facile. Ils n'allaient pas vers ces régions de collines, de basses montagnes, de la Samarie, pour aller en Galilée depuis la Judée. Mais si le Seigneur était allé dans cette direction-là, c'est parce qu'il avait décidé de rencontrer cette femme. Il savait qu'il était en difficulté. Et voyez-vous, notre chance, je puis vous le dire, c'est que nous avons un Sauveur qui veut le meilleur pour nous, qui nous connaît jusqu'au niveau de nos fibres les plus profondes. Il sait tout sur notre vie passée, sur ce que nous vivons présentement. Et il veut venir à notre secours. Oh, j'ai coutume de dire que, quand je traite de cette femme, que dans ce jour-là, hein, où le Seigneur l'a rencontrée, le Seigneur avait mis sa main dans la poche pour en sortir son agenda, hein, pour parler de façon moderne. Hein. Et qu'est-ce qu'il put lire sur cet agenda? Un nom, la Samaritaine. Un lieu, le puits de Jacob. Une heure, midi. Il avait rendez-vous avec elle. Elle ne le savait pas. Mais lui le savait. Elle était sur son agenda. Oh, je dirais beaucoup plus que cela. Elle était sur son cœur. Et voilà pourquoi il était allé jusque vers elle en Samarie, pour lui donner de l'aider et de la tirer d'affaires dans tous les problèmes et les souffrances qu'elle pouvait connaître, les luttes, les combats, hein, qu'elle ne révélait peut-être à personne, mais qu'elle vivait de façon cachée. Oh, nos savants nous disent aujourd'hui, mais que de détresse intime les hommes vivent-ils couramment, où qu'ils vivent? Voilà qui explique souvent la déprime et puis aussi la dépression. Alors le Seigneur arriva jusqu'à elle, fatiguée. Voyez, ce qui m'impressionne, c'est que le Seigneur se fatiguait pour les hommes et les femmes. On me dit, Alain Choiquier, vous êtes fatigué. C'est vrai, je le suis, ça je peux vous le dire. Hein. Alors vous êtes fatigué, il faut prendre un peu de repos, mais quand je pense à mon Sauveur qui ne comptait pas avec sa peine ni ses efforts pour atteindre les perdus, il était arrivé en transpiration, tout couvert de sueur, de poussière, là, au puits de Jacob. Pourquoi? Il voulait la rencontrer. Et savez-vous que, bien entendu, le Seigneur a retrouvé sa gloire aujourd'hui. Mais imaginez que ce soir, justement, Madame Gobert nous l'a tellement bien chanté, il est ici, il est dérangeable. Il est au milieu de nous, un Sauveur dérangeable. Ah, moi, je me souviens, quand j'étais dans les affaires, parfois, je voulais rencontrer mon patron, il me disait, je suis pas dérangeable. Tandis que le patron céleste, il est dérangeable tous les jours. Et même beaucoup plus que cela. Il apprécie tellement que nous venions le déranger. Hein. Alors, il dit, je suis dérangeable. On peut aller à lui. Et puis, il est au milieu de nous. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oh, dans la parole de Dieu, il dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, que se passe-t-il? Je suis au milieu d'eux. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce qu'a chanté Madame Gobert est vrai. Jésus est là. Et parce qu'il est là, la rencontre avec lui est possible. Dans ce lieu, bon, elle ne l'a pas rencontré dans une réunion à Carnières, hein. Elle ne l'a pas rencontré sur un terrain de volley-ball comme celui qui vous parle. Moi, je l'ai rencontré sur un terrain de volley-ball. Vous en avez qui rencontrent le Seigneur en avion, dans un avion. Vous en avez qui le rencontrent en marchant sur la route ou dans un désert ou peu importe. On peut le rencontrer partout. Oh, ceci est remarquable. Il suffit simplement de lui ouvrir notre cœur. Mais en particulier lorsque nous sommes réunis de cette manière-là, comme c'est le cas ce soir, alors sa promesse, je suis au milieu d'eux. Il est donc au milieu de nous. Ouvrons-lui notre cœur et il honorera sa promesse. Et nous verrons bien qu'il est là. Il entrera chez nous, pardonnera nos péchés, sans aucun reproche. Et apprenons cela, nous aussi, chrétiens. Parce que nous parlions tout à l'heure d'une femme malade de sa race. Ah, il en est des chrétiens qui pensent qu'ils sont, une fois chrétiens, d'une race supérieure aux autres. Attention, hein. Attention, nous ne valons pas mieux que les autres, hein. Et si le Seigneur nous a sauvés, c'est par grâce. Personne ne mérite d'être sauvé, hein. Oh, une dame, il y a peu de temps, à Aix-en-Provence, je tenais une campagne avec l'Alliance évangélique, c'est-à-dire toutes les églises ensemble. Hein, une dame avait été frappée, je parlais d'avortement et de divorce. Et cette dame m'avait dit, mais comment ? Aucun reproche de la part de Dieu, non, aucun reproche. Même au plan de l'adultère et des... Mais écoutez, regardez Jean 8, la femme adultère, qu'on avait traîné jusqu'au Christ, avec chacun sa pierre dans la main, pour pouvoir la lui balancer afin de la lapider. Et ces Juifs qui avaient dit à Jésus, voilà, hein, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Elle doit mourir. Qu'en dis-tu? Seulement, c'est curieux. Ce flagrant délit d'adultère, on ne fait pas un adultère tout seul. Lui, le coco, est-ce qu'il était passé? Non, hein. Alors c'était un homme, on n'avait pas osé le toucher. On l'avait traîné, justement, nous parlions de cette condition de femme au Moyen-Orient. Alors Jésus avait dit quoi? Il avait pris sa défense. Hein. Or, le seul qui pouvait prendre une pierre pour la lui balancer, c'était qui? Lui, le Seigneur, hein. Il ne l'avait pas fait. Et le Seigneur, alors, aux lèvres, cette parole qui avait condamné, là, tous ceux qui avaient chacun sa pierre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Plus personne n'a pu tenir devant le Seigneur. Alors, bien entendu que le Seigneur a dû lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas, hein, mais va et ne pêche plus, ne recommence plus. Mais là encore, pas de reproche. Mais apprenons du Seigneur, hein, nous chrétiens, vis-à-vis des non-chrétiens qui peuvent se situer dans des situations, dans des circonstances absolument inextricables et qui en souffrent, et puis qui se sentent souvent jugés par nous. Nous ne valons pas mieux qu'eux. Alors, aimons-les comme le Seigneur a aimé cette femme samaritaine. Oh, je disais tout à l'heure qu'elle était sur son agenda, beaucoup plus que ça. Elle était sur son cœur, et dans ce jour-là, il avait décidé de la rencontrer, comme il a décidé de vous rencontrer dans ce jour d'aujourd'hui, hein, le 11 septembre 1992. Est-ce que vous pouvez le croire? Beaucoup ont de la peine à penser que le Seigneur a fixé un jour dans lequel il veut rencontrer l'homme, la femme, etc., qui ont besoin de lui. Il a un jour pour vous. Je dirais encore, pour être plus précis, mon ami, il a un jour pour toi. Moi, je n'oublierai jamais le jour où le Seigneur m'a rencontré. Ah oui, j'avais lutté contre, hein. Vous ne pensez pas que celui qui vous parle est venu au monde en chantant un cantique, hein. Le 258, non, hein. Pas du tout. Au contraire, je luttais, j'étais étudiant à l'époque, et tout devait passer à ce niveau, au crible de l'intellect. C'est peut-être pourquoi, hein, il n'y en a presque plus. Mais j'en étais là, moi, puis alors, il me fallait du sûr et du solide pour que, réellement, je puisse venir au Seigneur. Et un jour, ça avait pu se faire avec cet homme de Dieu qui s'est appelé Ralph Chalice. et qui est maintenant auprès du Seigneur. Il y a eu un jour pour celui qui vous parle. Il y a un jour pour toi. Un jour dans lequel le Seigneur veut te rencontrer. Mais tu as peut-être conscience que tu l'as manqué ce jour. Il y a peut-être 5-10 ans, le Seigneur t'a parlé, puis tu n'as pas voulu de lui. Tu as voulu faire ta route à toi, et puis... Alors il a continué de parler, de taper, de heurter, etc. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Dieu fixe de nouveau un jour. Lequel? Celui du 11 septembre 92. Voilà, le nouveau jour que le Seigneur fixe pour celui ou celle qui ne l'a pas encore rencontré. Oh, la Bible dit, c'est maintenant le moment favorable. C'est aujourd'hui, oui, le jour du salut. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, son appel, n'endurcissez pas votre cœur. Mais il y avait tellement d'obstacles entre cette femme et le Seigneur. Imaginez, tellement de difficultés, tellement de choses qui faisaient barrage. Hein. La race, par exemple. Lui était juif, elle samaritaine, on ne se parlait pas. Très souvent, comme justement entre chrétiens et non-chrétiens, on ne se parle pas. On a l'air d'être fâchés. Et non, il ne faut pas cela. Hein. Parce que le Seigneur, lui, s'était situé presque tout le temps au milieu de ceux et celles qui ne le connaissaient pas. Au milieu de ceux et celles qui avaient besoin de lui. Et nous, chrétiens, nous avons besoin de nous situer parmi ceux et celles qui ont besoin de lui. Où qu'ils soient. Certes, une fois chrétiens, nous sommes la race élue, hein, comme dit l'apôtre, et c'est vrai. Et nous devons nous en réjouir, mais pas au point de regarder les autres de haut, hein, certainement pas. Alors le Seigneur avait lui-même balayé l'obstacle de la race. Quand on pense qu'on l'accusait, il est tout le temps, lui, avec des femmes de mauvaise vie, avec des gens qui ne méritent pas la peine qu'on les visite. Voilà ce qu'on disait du Seigneur. Mais lui allait vers ces personnes-là parce que, bien entendu, ces personnes avaient besoin de lui. Et puis il y avait l'obstacle religieux. Ah, cette femme avait sa religion, puis c'est elle qui avait engagé le problème, hein, la difficulté. À un certain moment, je l'ai peut-être dit ici, surtout en parlant aux chrétiens à propos de la manière dont le Seigneur prenait contact avec les perdus, du temps de son vivant. La femme samaritaine, à un certain moment de l'entretien, mit la main dans la poche pour en tirer une balle de ping-pong. Hein, disant au Christ, tu es prêt, on y va. C'était la balle de la dispute religieuse. Elle envoya dans le camp de Jésus la balle de sa religion. Nous nous disons que, vous vous dites que, etc. Bon, la bagarre commence. Hein. Ça ne vous est jamais arrivé avec un témoin de Jéhovah? Avec un mormon? Alors on n'en sort pas. Alors elle avait commencé de lui parler de ses pratiques, etc. Certes, elle croyait en Dieu, mais elle ne l'avait jamais rencontré. Il n'était pas dans sa vie. Alors beaucoup font ainsi tout à coup. Ils se rappellent qu'ils sont ceci, cela. Que de fois, moi, par exemple, dans mes tournées, une personne vient vers moi. Et j'ai tenu, il y a peu de temps, la convention des protestants de France, un temple à Anduze, 1000 personnes. Et puis ces protestants m'ont dit, vous savez d'où on vient, nous? Vous nous avez parlé comme si on ne connaissait rien. On descend des Huguenots. Ah oui, c'est bien, hein. Mais j'ai dû leur dire à quelques-uns, mais ça vous sauve pas, ça. Ça ne vous sauve pas, vous avez eu donc des ancêtres remarquables, mais ça vous ne sauve pas. Ce qui vous sauve, c'est Christ, ce que vous l'avez reçu, tout grand protestant que vous soyez. Et je dis la même chose à des amis catholiques, bien entendu. Ce qui sauve, c'est jamais une religion. Jamais. Quand j'entends par religion, bien entendu, tradition, rite, etc., éducation, tout ça, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Christ, alors lui est une personne. Qui veut passer chez nous, dans notre vie, dans notre maison, dans notre cœur, qui veut faire toute notre vie, qui veut donner tout son sens, nous l'avons dit hier soir, à notre vie. Alors ça, elle ne l'avait pas compris, elle n'avait pas... Oh, certainement qu'elle devait prier, cette femme. Certainement qu'elle devait pratiquer aussi, puisqu'elle a tout de suite engagé la conversation. Seulement, sa religion ne lui avait pas donné le Sauveur dont elle avait eu besoin. Oh, l'apôtre Paul à Athènes avait prêché, il avait dit quoi à Athènes ? Hommes athéniens, c'était sur une place publique. En un temps où les plein air étaient bien fréquentés, hein. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Ah oui, c'était des gens religieux. Car en parcourant votre ville, a dit Paul, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ah, ce Dieu que vous ne connaissez pas. C'est celui que je viens vous faire connaître, a dit l'apôtre Paul aux Athéniens. Et là, Jésus a dit, dans une prière à son Père, « La vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est me connaître, moi, celui que tu as envoyé. » Quelle parole! Et quand on sait l'étymologie, le véritable sens du mot « connaître », vous savez ça? Littéralement, naître avec. Ah, il nous faut naître en Dieu. Et il nous faut naître de nouveau. Voilà ce que dit la Bible. Alors, ce problème-là, c'est le Seigneur qui l'a encore évacué. Elle pataugeait littéralement dans ses traditions. Alors, elle pensait que le Seigneur allait lui parler de sa religion à lui. Il n'y en avait pas. La seule chose que le Seigneur lui a présenté, c'était lui-même, sa personne. Ce Messie dont tu parles, c'est moi. Alors, en échange de sa religion, là, il lui avait parlé de sa religion, le Seigneur, lui a parlé de lui-même. Et quand on parle du Seigneur, on parle du Sauveur. Hein. On ne parle pas d'une religion, c'est pas une religion qui sauve, c'est le Seigneur. Alors, on aide les personnes à le recevoir. On aide les personnes réellement à venir à lui. C'est absolument remarquable. Et puis nous en arrivons alors, et ce sera la conclusion parce qu'il faut quand même terminer. J'aimerais que vous reveniez demain soir et vous revenir. Je n'aurai pas le même message. Hein. Alors on en arrive à son grand problème, au problème de son péché. Tu veux cette eau que j'ai pour toi ? Tu la veux. Vous n'avez pas tout compris. Hein. Celui qui boit de cette eau dans ta cruche là aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, une eau d'en haut, hein. Alors celui-là n'aura plus jamais soif. Et donne-moi cette eau, lui a dit la femme. C'est bien. Tu veux cette eau, ok, oui. Mais va chercher ton mari et viens ici. Alors le Seigneur, avec une délicatesse remarquable, un tact. Il est formidable, le Seigneur, a touché sa conscience. Et il faut que notre conscience soit touchée. Hein. Alors, tout à coup, ça a commencé de sortir. Hein. Ah oui, t'as eu Saint-Marie. Hein. Et alors qu'il est, tu vis en concubinage avec un sixième homme. Mais sans jugement, hein. Sans condamnation, sans reproche. Hein. Va le chercher, ton mari. Il l'avait mise en difficulté. Mais un jour, il a fallu au Seigneur qu'il me parle de mon péché. Ah oui, et son péché, vous savez, c'était justement un péché bien, 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 bien actuel. Dont j'ai commencé de parler au tout début du message, l'immoralité sexuelle. Oh, nous vivons en un siècle difficile sur ce plan. Difficile sur ce plan. Alors très souvent, quand nous abordons la question, Alain Choiquier, qu'est-ce que dit la Bible de ces questions-là ? Et puis, on n'aime pas tellement en entendre parler, oui, de ces choses, et pourtant, il faut les évoquer. C'est important. Alors, disons tout d'abord que c'est Dieu qui est à l'origine, le Créateur de l'homme, de la femme, nous l'avons vu, en même temps que de leur sexe. Parce que ceux du dehors pensent que le sexe est synonyme de mal. et de péché. Mais ça n'est pas vrai du tout. La plupart du temps, c'est parce que la conscience agite, torture, tenaille, que l'on croit ces choses. C'est Dieu qui l'a créé, le sexe. Et après avoir créé l'homme et la femme, il est dit que Dieu avait trouvé ce qu'il avait fait très bon. Mais Dieu veut de l'ordre dans ces choses. Il n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent n'importe comment. Et avec le sexe, Dieu a donné les lois du sexe, parce que Dieu est un Dieu sage. Vous ne verriez jamais un patron confier à l'un de ses employés une machine sans lui donner avec cette machine quoi ? Son mode d'emploi, sinon c'est dangereux. Alors, le patron est sage, à plus forte raison le grand patron, de la vie, des univers et des mondes. Alors, il a donné les lois du sexe qui sont réellement énoncées dans les Saintes Écritures, au livre du Lévitique au chapitre 18, au livre du Lévitique au chapitre 20. Le sexe, oui, pas n'importe comment. Sinon, précisément, ça dégénère en corruption. Alors, ni le sexe, ni la sexualité ne sont condamnés dans la Bible, certainement pas. Alors, essayons de voir ensemble rapidement ces lois du sexe que cette femme, justement, avait bousculé. Et nous avons tous besoin de réentendre ces choses, de les entendre, et même de les entendre quand on est jeune, parce que quand on n'enseigne pas ces choses, le monde se charge de les enseigner à notre place. Et puis nos enfants, très jeunes, entendent des choses et voient des choses qu'ils ne devraient ni entendre ni voir. Dieu dit deux sexes, il n'en a pas fait 36. Alors, troisième loi, première loi, c'est Dieu qui a fait ces deux sexes. Deuxième loi, que de sexe, pas 36. Troisième loi, un seul conjoint. Ah là, c'est aussi difficile à entendre quand nous vivons ce que nous vivons, mais je le répète, si nous avons versé dans l'immoralité sur ce plan, le Seigneur ne nous juge pas. Il est venu pour nous sauver. Lui-même l'a dit, que le Père ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors, madame, si c'était votre cas, venez avec confiance au Seigneur, il ne vous juge pas. Il vous sauve ce soir, il vous rencontre, il vous aime, un seul conjoint. Il est dit que l'Éternel tira, disons, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, mais une seule femme. Il aurait pu lui faire un harem à Adam. Comme ça, il aurait pu changer de femme tous les soirs. Ça n'a pas été le cas. Une seule Ève. Et jeune homme, je parle à des jeunes peut-être, ou à des moins jeunes, qui sont du sexe masculin, par exemple. Il n'y a qu'une seule Ève pour vous, trouvez-la avec son aide. N'y allez pas tout seul, vous risquez de vous casser la figure, mais demandez-lui qu'il vous aide dans ce sens. Et vous, si vous étiez jeune fille, demoiselle, ou jeune dame, que sais-je encore, eh bien, là encore, il n'y a qu'un seul Adam. Mais quand j'affirme ces choses, les jeunes me disent, c'était facile pour Adam, parce qu'il n'y en avait qu'une, il ne pouvait pas se tromper. C'est vrai. Mais il n'y a qu'une Ève pour toi, jeune homme. Comme il n'y a qu'un Adam pour toi, jeune fille. Tout à fait, un seul conjoint. C'est pourquoi, Genèse 2:24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Il est vrai que nous avons des lois qui essaient de nous protéger, en Belgique, en France, et qu'une seule épouse, qu'un seul conjoint n'est permis. Mais en réalité, franchement, ça n'est que rarement le cas. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quatrième loi. Tu ne commettras point d'adultère. Lévitique 20:10, c'est du temps de Moïse, heureusement que ça n'est plus le cas. L'adultère, l'homme, la femme, était puni de mort. Voilà pourquoi on avait traîné cette femme jusqu'à Jésus avec une pierre dans la main. Dites-moi, qu'est-ce qu'il resterait comme Belge, hein, si l'adultère était puni de mort en Belgique? Qu'est-ce qu'il resterait de français, franchement? Et quand le français entend que l'adultère du temps de Moïse était puni de mort, il s'en révolte. Mais vous ne voulez pas quand même qu'on puisse se contenter que d'une seule femme? Légalement, oui. Et laissez-nous tranquilles avec le reste. Tu ne commettras point d'adultère. Pas d'homosexualité, cinquième loi. Alors on tente d'accorder les circonstances atténuantes à l'homosexualité. Bien non, lui, non. Le Seigneur n'a pas créé les sexes dans ce but-là, jamais. Lévitique 20:13, oh, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme. Ils ont commis tous deux une chose abominable aux yeux de Dieu. Ils seront punis de mort. Tandis que tout doucement, mais certainement, nous en arrivons à une légalisation de l'homosexualité. Voilà ce que dit la Bible. Et nous poursuivons. Le viol. Il y a 12 viols par jour à New York. Le viol était puni de mort. Deutéronome 22-25. Mais si l'on commençait de punir de mort le viol aujourd'hui, ben on y réfléchirait à plusieurs fois. Hein. En tout cas, les violeurs. L'inceste, septième loi. Lévitique 20:11, interdit, dans toutes les directions, hein. Absolument interdit. Lévitique 20:17, Deutéronome 27:20, et tout dernièrement au Canada, un pasteur s'était ouvert à moi pour me dire, mais si tu savais, mon pauvre, le nombre de cas d'inceste que j'ai à régler dans cette ville de Québec et pour lesquels on m'appelle. Mais ça n'est pas pensable pour nous. Ce problème est plus aigu que l'adultère. Voilà l'ordre que Dieu cherche à propos du sexe, n'est-ce pas? Et puis Dieu va plus loin. Pas de rapport sexuel avec les bêtes, les animaux. Ça veut dire, Alain Chouaki, vous n'y êtes plus. Comment, je ne suis plus, il y a peu de temps, j'entendais dire qu'en Allemagne, cette affaire se pratique avec des bêtes. Où la Bible dit, si un homme ou une femme couche avec une bête, ils mourront. Oh, Dieu avait tout prévu, et ces choses se vivent dans des pays qui connaissent une corruption sur ce plan, quelque chose d'inouï. Dieu veut que le sexe, c'est la neuvième loi, engage notre responsabilité. Pourquoi? Parce que générateur de vie, instrument de procréation, il doit engager la responsabilité. On ne peut pas y aller comme ça n'importe comment, c'est trop grave. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, il fera réparation. Sous forme d'amende, elle la prendra pour femme parce qu'il l'a déshonorée. Et parce que la relation sexuelle, dit la Bible, fait de deux êtres une même chair. C'est un acte solennel et grave. Mais si vous aviez vécu n'importe comment sur ce plan, vous n'êtes pas jugé. Le Seigneur vous aime. Il voudrait simplement arranger les choses sur ce plan avec vous, avec un amour remarquable, et il fera que tout changera à ce niveau. Dixième loi, Dieu veut que le sexe ait pour toile de fond un amour authentique, mais pas du tout l'amour d'Amnon pour Tamar. Mais franchement, est-ce qu'Amnon aimait Tamar? Qui dit oui, qui dit non? Il l'avait désiré sexuellement. Et il avait confondu sexe et amour. Voilà le problème d'aujourd'hui. Tout le problème. On pose souvent la question, le désir sexuel est-il l'amour? Mais pas du tout. Le désir sexuel fixe un objet. L'amour, lui, fixe un être tout entier. C'est toute la différence. Mais bien entendu que le sexe se situe dans ce cadre de l'amour, de l'être en face tout entier. Alors il faut absolument, pour toile de fond, imaginez que dans mon assemblée où j'étais avant à Paris, en pleine réunion de jeunesse, une jeune fille avait tenté de se suicider. Heureusement que David passait par là et puis l'avait aperçu, il nous avait alerté. On avait fait venir police secours, elle fut emmenée en ambulance à l'hôpital et puis on était allé la voir. Alors, Christine, qu'est-ce qui s'est passé? Tu semblais tellement joviale, heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne vous l'ai jamais dit, mais je vivais en cachette avec quelqu'un. Je croyais vraiment qu'il m'aimait. Et il me disait souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je l'ai cru. Puis un jour, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que on s'aime, on vit séparés? Pourquoi? On peut se mettre ensemble. Alors, il est venu chez moi. Et nous avons commencé une vie ensemble, mais dès que je lui ai fait savoir que j'étais enceinte, je le suis de lui, l'oiseau s'est envolé. Alors, Christine, est-ce que tu crois vraiment qu'il t'aimait? Il t'aurait abandonné, hein? Certainement pas. D'où justement cette expression de Serge Gainsbourg, n'est-ce pas? Je t'aime, moi non plus. Il faut un amour véritable. L'homme s'attachera à sa femme. Et il y a dans ce terme s'attacher toute la force d'un amour authentique. Voilà pourquoi Dieu veut le mariage. On y est. Parce que le mariage engage la responsabilité. Or aujourd'hui, on veut du sexe, mais sans le mariage. Sans la responsabilité. Puis quand l'enfant est là, on n'en veut pas. Mais c'est horrible. Alors il nous faut remettre les choses comme Dieu les a voulues à l'origine. Dans le concubinage, il y a bien une seule chair, c'est clair, hein? Parce qu'il y a relation sexuelle. Mais il n'y a pas alliance. Alliance fondée sur la parole donnée. Le serment sur des promesses. Encore qu'aujourd'hui, on promet puis on ne tient plus, hein. À Paris, comme je le disais hier soir, un mariage sur deux, ne tient pas. Mais Dieu veut, justement, un mariage qui se fonde sur des promesses. Et il voudrait même un mariage qui calque, en quelque sorte, cette relation que nous avons avec lui. Homme-femme, Christ-Église, fantastique. Homme-femme, Christ-Chrétien. Le mariage est une alliance. Le Christ est venu pour faire alliance avec l'homme, pour le sauver. Quand le Christ nous sommes, nous entrons dans cette alliance. Et puis la Bible nous fait savoir que c'est une alliance qui se fonde sur des promesses remarquables avec le Seigneur. Ainsi, veut-il du mariage, puisqu'il y a ce rapport, hein, homme-femme, Christ-chrétien, Christ-église. Il veut un mariage qui se fonde lui aussi sur d'authentiques promesses, et puis qui se fonde aussi sur un serment véritable. Quand Dieu fit alliance avec Abraham, il fit intervenir le serment. Et le serment est aussi indispensable. C'est écrit, le serment qui affirme la parole donnée. Comment Alain Choiquier sait-il qu'il est sauvé? Il sent quelque chose. Non. Non, moi, je ne vis pas de sentiments. Je vis sur ce fondement de la parole. Je sais que ce que Christ me dit est vrai. J'ai une épouse qui m'aime, hein, c'est quand même remarquable. Et moi, je l'aime en retour. Mais vous me posez la question, Alain Choquet, vous la sentez en ce moment? Je la sens pas. Elle est à Paris. Mais nous avons entre nous une alliance fondée sur des promesses dans lesquelles est intervenu le serment. Ah oui, la force de la parole donnée. Et si nous pouvons être sûrs d'être sauvés au plan spirituel, c'est parce que justement, l'affirmation de Dieu est intervenue avec serment. Nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, c'est sûr. Certains voudraient croire en Dieu, mais j'allais dire d'une façon fébrile, mais non. Croire, c'est beaucoup plus se confier, s'abandonner. Et puis c'est prendre pour soi ce que le Christ a affirmé. Il est la vérité. Alors, c'est le fondement. C'est du roc. Ça tient, c'est sûr. Et on peut aller de l'avant. Alors, le mariage doit se calquer là-dessus. C'est ainsi qu'on peut être heureux dans le mariage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. Mon épouse vous le dirait. Vous croyez qu'Alain Choquet est un ange. Et vous croyez que mon épouse l'est aussi. Mais le mariage, c'est l'école par excellence de l'amour. On apprend à s'aimer l'un l'autre. Et on avance ensemble avec l'aide du Seigneur. Sans le Seigneur, c'est catastrophique. Et c'est ainsi qu'on peut réellement réaliser et fonder un foyer qui tient debout, sinon c'est la catastrophe. C'est la maison bâtie sur le sable. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut le Seigneur dans le coup. Si le Seigneur n'est pas dans le coup, c'est catastrophique. On ne peut pas même faire confiance en un homme, une femme. Et j'ai cité un exemple tout à l'heure, mais que d'hommes, de femmes viennent vers nous pour nous parler de cette manière-là. Déçus, qu'ils ont été par les uns comme par les autres, mais ils avaient peut-être été avertis, puis le Seigneur avait saisi ces occasions-là pour les attirer à lui. Alors avec un tel message, bien entendu, comme cette femme, nous nous sommes sentis atteints au plus profond de nous-mêmes, oui, c'est sûr, dans notre conscience, mais le Seigneur l'a voulu parce qu'il nous aime. Comme le médecin vient chez vous, alors la première chose qu'il fait, c'est d'établir le diagnostic de la maladie dont nous sommes atteints. Alors, bien entendu, quand il est là à chercher, à réfléchir, on attend. Hein? On attend, puis ensuite le diagnostic réalisé, le médecin donne le remède. Heureusement, hein. Malheureusement, il n'y a pas remède à toutes les maladies, hein, comme vous le savez. Il en est qui sont incurables. Et la Bible dit que justement le péché est une maladie incurable. Le médecin ne peut rien pour le péché. Le psychologue non plus, le psychiatre, tout ce que vous voulez, le philosophe, l'homme de science, l'homme de lettres. Heureusement qu'il en est un, et c'est l'espoir justement. Il en est un qui peut tout contre le péché, c'est le Christ. Pourquoi ? Et même pour nous guérir de notre péché sexuel. Vous allez dire, c'est impensable de dire que sur lui, le Christ a pris toute cette corruption sexuelle des hommes, leur immoralité, pour les sauver. Et pourtant, c'est vrai. La Bible dit, Christ est mort pour nos péchés. Mais pour tous nos péchés. La Bible dit même que le Christ a pris ton péché, le mien, notre péché personnel, comme s'il avait été le sien. Il a été puni à notre place. Oh, la Bible dit que sans lui, c'est sans issue. Est-ce que nous voulons venir à lui? Et c'est comme ça que cette femme a trouvé le Sauveur. Elle l'a rencontré. Il est passé dans sa vie. Et alors, elle était allée vers les siens, vers les Samaritains. On n'a pas lu les textes, mais lisez-les, ces textes. Elle a dit aux Samaritains, venez, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Enfin, elle ne leur disait rien de nouveau. Tous savaient ce qu'elle avait fait. Mais cette fois, c'était réellement pour de bon. Hein. En même temps que pour de vrai, parce que cet homme lui avait apporté ce dont elle avait eu besoin, cette vie abondante, cette eau vive, dans ce cœur terriblement insatisfait, malgré ces 6 hommes. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors ils étaient montés vers le Seigneur, hein. Et puis ces Samaritains avaient reçu l'Évangile. Oh, voulez-vous faire comme cette femme, venir au Christ? Voulez-vous faire comme cette femme, accepter ce qu'il vous dit? Voulez-vous faire comme cette femme, le prendre pour votre sauveur personnel? Voulez-vous faire comme cette femme, accepter le rendez-vous? Comme je pense à cette journée du 11 septembre. Je suis persuadé que de par le monde, des milliers d'hommes et de femmes, de jeunes, ont rencontré Jésus-Christ. Et que pour eux, cette date, oui, n'est pas prête de s'effacer de leur mémoire. Alors voilà pourquoi cette journée du 11 septembre 92 peut marquer votre vie. Il est des rencontres qui marquent, des rencontres humaines. Je me souviens d'Alain Chouaquier quand il était encore jeune, là, à Paris, lui aussi seul dans son studio. Et il pouvait se faire que je sorte de chez moi comme ça, les cheveux en l'air. J'en avais en ce temps-là. J'ai regardé une photo d'il y a 30 ans, j'en avais pas mal, hein. Alors, je pouvais sortir les cheveux en l'air comme ça. Ou encore sans cravate, les jeunes mettaient une cravate en ce temps-là. Alors, dans le métro, tout à coup, je faisais ça, putain, j'ai pas mis de cravate, j'ai oublié. Mais une fois Jeanne rencontrée, mes amis, celle qui est aujourd'hui ma femme, hein, une fois Jeanne rencontrée, ah, les cheveux étaient à leur place. Hein. Bien peignée, la cravate en place aussi. Hein. Il y a des rencontres qui changent la vie entre humains. À plus forte raison quand il s'agit de cette rencontre. Avec le Christ et la Bible, il est impossible de le rencontrer et de continuer de vivre comme c'était avant, précédemment. Non. De même que des rencontres humaines peuvent marquer, la rencontre avec le Christ marque de façon déterminante. La Bible dit, si quelqu'un rencontre le Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi passées? Parce que pardonner. Vous savez, quand le Seigneur pardonne, il oublie. C'est fini. Mais il peut oublier parce que Christ est mort pour nos péchés. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Oh, quelle joie de pouvoir entrer dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Oh, j'aimerais en inviter quelques-uns maintenant à venir au Christ, me disant, j'accepte le rendez-vous, Alain Chouaquier. Oui, je veux recevoir Christ, mais je ne sais pas ce qu'il faut lui dire. Alors, j'aimerais vous aider. Je vais dire une prière. Vous allez la répéter après moi, silencieusement dans votre cœur. C'est pour vous aider. Et je voudrais tellement le faire. Alors allons au Seigneur ensemble maintenant. Allons au Seigneur ensemble. Il nous a fixé rendez-vous dans ce lieu ce soir. Alors c'est oui ou c'est non? Dites, c'est oui, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que j'ai besoin de toi. Tu sais ce que je vis de situation et que beaucoup ne voient pas, ne connaissent pas autour de moi. Mais tu sais tout cela, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Tu m'aimes, dites-lui, c'est ma chance. Rencontre-moi, dites-lui, comme tu as rencontré cette femme, pour l'aider, pour la sauver. Seigneur, rencontre-moi maintenant. Entre dans ma vie. Je ne veux pas simplement croire que tu existes comme cette femme, mais je veux une rencontre avec toi. Deviens mon sauveur personnel, comme tu es devenu le sien. Et Seigneur, tu sais mon péché, ma vie, tu sais tout cela. Et comme avec cette femme, tu ne me fais aucun reproche. Tu m'as donné ta vie pour mes péchés sur la croix. Seigneur, je le crois, c'est vrai. Seigneur, j'accepte la croix pour mes péchés, mes erreurs, mes fautes, mes errements. Pardon, Seigneur, et sauve-moi.